Le combat. Ces voix dépassent notre entendement, n'est-ce pas? Merveilleux Seigneur, qu'il est doux de mettre en lui sa confiance. Je suis absolument certain que vous avez passé un moment merveilleux ce soir. Et il y a quelques instants, en ouvrant la porte, j'ai entendu Sœur Gertie chanter ce vieux chant « Tenez ferme, une heure encore seulement ». Cela m'a rappelé ma petite église, juste avant que je m'en aille, la dernière fois pour le chant missionnaire. Je vois encore l'inscription « Cherchez Dieu d'abord », ici en face, sous cette vieille poutre. Je me souviens que c'est Sammy Davidson qui l'a peinte dessus il y a environ 25 ans. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a « Où passerez-vous l'éternité ?» Réfléchissez. Et juste là, il y avait une femme au puits et Daniel dans la fosse au lion. Oh, que de choses se sont passées depuis ce temps-là. À 5 heures environ cet après-midi, j'ai été appelé d'urgence à 30 ou 40 milles dans la campagne auprès d'une mourante, une amie très chère, la mère de Georgie Carter. Et je savais qu'il y avait beaucoup de ministres pour me remplacer jusqu'à ce que je revienne. Edith a été très malade aussi. Et pendant que nous étions là-bas, le Seigneur s'est manifesté et Sœur Carter est bien loin de mourir. Aussi nous en sommes très reconnaissants. Et maintenant, c'est bientôt l'heure du service de communion. Je crois que c'est à peu près à minuit. À quelle heure avez-vous l'intention de le faire? Sœur Neville dit, quand vous voudrez, à partir de maintenant et jusqu'à 11h30, note de l'éditeur. Juste à l'heure que nous... Combien vont prendre la communion ce soir? Levez vos mains. C'est... Oh, c'est merveilleux. C'est bien. Je voudrais juste dire un mot ou deux. Je vais peut-être poser ma montre là pour 10 minutes. Dans un quart d'heure, nous commencerons le service de communion. Maintenant, l'aimez-vous? Amen. Et je sais que vous avez eu des moments extraordinaires, n'est-ce pas? Eh bien... N'est-ce pas, frère Thomas Kidd et Sir Kidd, qui ont parcouru tout ce chemin depuis l'Ohio? Je pense bien qu'ils sont courageux. Oh, c'est vraiment bien. J'espère que c'est enregistré et que je l'entendrai. Vous savez qu'ils n'abandonnent pas. Ils ont presque 100 ans. Mais voir des gens comme cela, c'est ce qui me donne du courage. Pensez, je suis un vieil homme, et avant ma naissance, ils prêchaient déjà l'Évangile. Et voilà, je suis vieux. Et eux, s'ils ne peuvent pas sortir et se faire entendre, ils prennent un enregistreur et ils vont d'hôpital en hôpital, de maison en maison, prêchant l'Évangile. C'est vraiment extraordinaire. Amen. Je suis vraiment heureux pour eux et pour tous ceux qui se réjouissent à l'avance de ce service. Maintenant, rappelez-vous, nous allons l'annoncer maintenant, Dieu voulant aussitôt que l'Église sera terminée, et paraît-il ce sera vers le 10 février, eh bien, le Seigneur voulant, nous désirons prendre au moins 8 ou 10 jours ou peut-être 2 semaines pour ces 7 sceaux de l'Apocalypse. Et nous ferons parvenir des invitations aux gens qui nous visitent des alentours, de chez nous, de façon à ce qu'ils sachent suffisamment à l'avance s'ils décident de venir. Et nous serons vraiment très heureux de vous avoir ici. Et peut-être le Seigneur nous donnera-t-il une nouvelle manifestation de sa présence comme il le fit la dernière fois quand nous expliquions les 7 âges de l'Église. Si vous voulez prier pour quelqu'un, ne m'oubliez pas, car j'en ai vraiment besoin. Maintenant, je suis vraiment honteux de vous prendre ces 10 ou 15 minutes pour vous dire quelques mots avant de commencer, mais courbons la tête juste un moment. Seigneur Jésus, un jour, la bataille sera terminée. Il n'y aura plus de malades pour qui prier. Il n'y aura plus de pécheurs qui se repentiront. Mais Père, alors que ce jour est ce qu'il est, travaillons pendant qu'il y a de la lumière, car l'heure vient où personne ne pourra plus travailler. Maintenant, pendant quelques instants, Seigneur, je me sentirais mal à l'aise si je ne le faisais pas, si je finissais l'année sans dire encore quelques mots. Aide-moi, Père, je te prie, à dire quelque chose qui mette du courage au cœur de ton peuple. Que nous puissions quitter cet endroit ce soir après avoir pris le souper du Seigneur et réaliser que dans le souper du Seigneur nous puisons de la force. Israël prit d'abord la communion en Égypte et marcha 40 ans sans user les chaussures ni les vêtements. Et sur 2 millions de personnes, il n'y en avait aucune qui soit faible quand ils quittèrent le désert. Seigneur, souvenons-nous-en ce soir, alors que nous nous approchons de ce grand moment. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Si je prenais le sujet sur lequel j'avais écrit pour commencer cet après-midi, nous serions encore là à 5 heures du matin. Fermeville dit, ce serait d'accord, frère Branham, note de l'éditeur. Mais je veux simplement lire une parole de merci. Éphésiens, chapitre 6, verset 12, est juste pendant un moment pour nous encourager. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et je voudrais en tirer un contexte, ou plutôt un texte de 10 à 15 minutes. Je voudrais l'appeler le combat. Un combat est une épreuve de force. Et nous, quand nous avons l'épreuve de force, nous avions l'épreuve de force, les Indiens allumaient un feu. Ils mettaient tant d'hommes de ce côté-ci de la corde, tant d'hommes de ce côté-ci, et la lutte de la traction à la corde, l'épreuve de force, tirait dans le feu ceux qui perdaient. Et maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être illustrées pendant quelques minutes l'idée de lutte. Mais pendant ces minutes, je vais vous parler rapidement du plus grand combat qui puisse exister. Le combat entre l'Église et Satan. Et nous voulons parler de la grande force de Dieu dans son Église. Maintenant, ce grand combat dure depuis de nombreuses années. Il a commencé au ciel et Satan fut précipité sur la terre. Et devint alors l'ennemi du peuple de Dieu. Et depuis, il a employé toutes ses forces et toute sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu au travers du feu, ou dans son feu. Et nous savons que celui qui a la plus grande puissance, c'est Dieu. Et Dieu donna à son peuple la meilleure chose qu'il puisse donner pour combattre Satan. Et c'est sa parole. Maintenant, parce que la parole est Dieu, et qui est plus fort que Dieu? Ainsi, la parole est Dieu, et la parole devient notre force. Dieu, dans son Église, devient la force de cette Église, pour tirer Satan dans son propre feu qu'il a fait. Et la lutte à la corde continue. Maintenant, Jésus a dit en Marc 16, en mon nom ils chasseront les démons. Maintenant, je sais que c'est un vieux dicton que les gens... Il y a un vieux dicton, et il n'est pas si vieux que cela, les gens ne croient plus aux démons. Mais ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est connaître son ennemi. Et connaître son ennemi est s'entraîner pour le combat que vous aurez quand vous le rencontrerez. Et connaissez-le, connaissez sa force, puis entraînez-vous pour le combat que vous aurez quand vous le rencontrerez. Car une chose est certaine, vous le rencontrerez. Aussi, entraînez-vous pour le combat. Maintenant, s'entraîner pour un combat, c'est exactement comme pour un boxeur. Il va rencontrer son ennemi là-bas dans le combat pour lutter. Un bon combattant, généralement, connaît et étudie son adversaire. Il étudie ses coups, il sait où il vise, s'il se penche en avant ou en arrière, s'il est droitier, s'il est gaucher, il étudie tout cela. Et alors, s'il est un bon combattant vif, on lui procure un partenaire de combat qui se battra exactement comme se battra son adversaire. Pour qu'il connaisse tous ses coups quand il sera face à lui. Et je pense que c'est une bonne chose pour les chrétiens de faire cela. C'est bien. Et maintenant, si vous voulez commencer à vous entraîner, commencez avec Jean 3,16, la règle d'or. Commencez donc avec cela, et cela va vous amener sur le ring. Et ensuite, entraînez-vous pour les coups de chaos, parce que vous allez en avoir besoin. Tout le monde sait cela. Il faut vous entraîner à frapper votre ennemi. Et Dieu se sert toujours de sa parole. Nous devons nous rappeler que Dieu se sert de sa parole pour vaincre ses ennemis. Si Dieu avait pu penser ou avait pu donner à son peuple quelque chose de mieux pour vaincre l'ennemi, il l'aurait fait. Aussi, comme je dis toujours, quand Dieu prend une décision, c'est la meilleure qui soit. Ils ne sont jamais ces décisions. Ainsi, la première décision que Dieu donna à son peuple dans le jardin d'Éden pour combattre l'ennemi, c'était sa parole. Ils étaient fortifiés par sa parole. Et maintenant, l'ennemi va étudier notre stratégie avec la parole. Et Satan étudia tout cela si parfaitement que lorsqu'il s'approcha d'elle, il possédait la meilleure stratégie dont il pouvait se servir contre elle. Et c'était de raisonner avec la parole. Maintenant, vous ne voudrez jamais raisonner avec la parole de Dieu. Croyez-la seulement. N'essayez pas de l'expliquer. N'essayez pas de la définir. Vous ne pouvez pas définir Dieu, et Dieu est la parole. Elle est faite pour être crue. Et c'est notre force d'accepter simplement la parole. Et tout le monde sait qu'une graine dans un bon terrain produira selon son espèce. Et nous prenons simplement la parole. Et maintenant, Ève commença à s'arrêter pour raisonner quand elle lui cita la parole. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Oh, Satan était toujours d'accord avec elle. Il dit, certainement, c'est cela. Mais il dit, tu vois, tu as besoin d'une nouvelle lumière. Quelque chose d'un peu différent de ce que Dieu a dit. Et si tu le fais, tu seras simplement un peu plus intelligent. Tes yeux s'ouvriront. Mais elle dit, bien, mais Dieu a dit que nous mourrions. Il dit, oh, certainement. Voyez, nous y sommes. Simplement ce petit peu. Certainement, vous ne mourrez pas. Mais Dieu a dit que vous mourriez, et c'est terminé. Et c'est cela qui a brisé cette corde de lutte et qui a tiré toute la race humaine dans la mort. Parce que Ève écouta un raisonnement contre la parole de Dieu. Maintenant, c'est une honte qu'elle l'ait fait, mais c'est fait. Mais maintenant, nous sommes toujours fortifiés, et ceci dans le Seigneur Jésus. Nous savons que Dieu nous a donné sa meilleure protection, simplement se confier en sa parole. Vous savez que beaucoup disent que le diable n'existe pas. Ils pensent que c'est simplement une idée. Ils croient cela. Et il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une bonne idée et que le diable en est une mauvaise. Mais si vous voulez le remarquer, lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, elle dit « Lorsque lui, le Saint-Esprit, sera venu ». Et lui est un pronom personnel, voyez-vous? Ainsi, lui est une personne. Et le diable est une personne. Et les démons sont des personnes. Oui, ce sont des démons, et ils viennent de beaucoup de manières. Mais on pense que c'est une idée démodée. Un homme discutait ici avec moi il y a quelques semaines. Il dit, savez-vous ce que vous faites? Quand vous dites une chose aux gens, vous leur mettez cette idée dans la tête. Vous ne faites que leur changer, leur façon de penser. J'ai rencontré la même chose exactement en Inde une fois, avec ces saints hommes qui étaient là. C'était, je crois, le plus grand auditoire auquel j'ai jamais parlé, un auditoire d'un 500 000 de personnes debout. Et je le saisis par le discernement dans l'esprit. Et ils ont vu le Saint-Esprit appeler les gens, les appeler parmi les auditeurs, et leur dire différentes choses et saisir leurs pensées. Les rajas, les saints hommes dirent, il lit dans la pensée. Après un moment, 5 ou 6 étaient déjà passés dans la ligne de prière, arrive un aveugle. Il était complètement aveugle, ses yeux étaient blancs comme ma chemise. Et je dis, voici un aveugle, tout le monde peut voir qu'il est aveugle. Et je dis, si je peux l'aider, je vais le faire. Mais la seule façon de le faire est par un don, en disant peut-être quelque chose qu'il a fait. Et ceci vous donnera la pensée que si Dieu sait ce qu'il a fait, il peut certainement savoir ce qu'il va faire. Aussi je dis, maintenant, en le regardant, je dis, c'est un adorateur du soleil. Il y a 20 ans qu'il est aveugle. Et quand l'interprète le dit, c'était bien cela. Je dis, il est marié, et sa femme est plutôt petite. Et il a 2 fils, l'un de 7 ans à peu près, et l'autre de 9 ans. C'était tout à fait exact. J'ai donné leur nom, ce que c'était. Alors de l'auditoire, là où étaient les gens, arriva ce murmure, c'est mental, c'est quelque chose de psychique qui permet de lire dans leurs pensées. Alors je pensais, Seigneur, veux-tu m'aider? J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Ces gens sont en train de cataloguer cela comme de la télépathie, et ce n'en est pas, tu le sais, Seigneur. Pourtant, je vais leur donner ce verset où Jésus dit qu'il ne fait rien avant que le Père ne lui montre. Et alors, Je me tournai vers l'homme pour le regarder encore. Je le vis là, au-dessus, dans une vision, avec une vue aussi bonne que la mienne. Je pensais, maintenant c'est le moment. Je dis, cet homme est un adorateur du soleil, et il est devenu aveugle. Et je dis, maintenant il y a des prêtres musulmans, il y a les prêtres des chiites et des djents, et des différentes sortes de religions, Bouddha. Maintenant cet homme désire recevoir la vue. On peut dire qu'il adorait la création plutôt que le créateur, je le crois aussi. Mais nous sommes ici ce soir. Je dis, et aujourd'hui nous sommes allés, j'ai été reçu dans le temple des djents où il y avait des gens de 17 religions différentes pour m'interroger, et tous étaient contre Christ, tous. Et je dis, maintenant, et beaucoup d'entre vous hommes étiez là-bas, maintenant si nous avons tort de croire en Christ, cet homme désire avoir raison. Et certainement le Dieu de la création qui a fait le monde est le seul qui puisse lui rendre la vue. C'est logique. Et je dis, maintenant si quelqu'un de vous ici, l'islam ici est la principale religion, si le prêtre musulman veut venir et lui rendre la vue, alors je suivrai l'islam, ou si le prêtre de Bouddha veut venir et lui rendre la vue. Mais que le Dieu qu'il a créé, le Dieu de quelqu'un, quelque part, car il doit exister, nous ne pouvons pas avoir de création sans créateur, et il faut un créateur pour créer la vue dans ses yeux-là. Il y a 20 ans qu'il est aveugle à force de regarder le soleil, pensant qu'il irait au ciel s'il le faisait. L'homme avait fait cela par ignorance. Je dis, vous prêtre de Bouddha, que feriez-vous? Vous changeriez simplement sa manière de penser. Vous diriez qu'il a tort, car eux, ils adorent leurs ancêtres disparus. Et je dis, maintenant vous penseriez, vous diriez qu'il avait tort, mais que feriez-vous? Vous changeriez sa façon de penser. Et je dis, que feraient les musulmans? Ils changeraient sa façon de penser. Les chiites, les djents, etc. Ils changeraient sa façon de penser. Je dis, nous avons la même chose aux États-Unis. Les méthodistes veulent que tous les baptistes deviennent méthodistes. Et les pentecôtistes veulent faire de tous les méthodistes des pentecôtistes. C'est un changement de pensée. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons. Nous parlons de Dieu, le Créateur. Et je dis, certainement le Créateur parlerait. Et maintenant, je n'aurais pas dit cela si cette vision n'avait pas été là. Certainement pas. Et maintenant, je dis, maintenant, si celui que nous reconnaissons pour Dieu vient lui redonner la vue, et je dis, et maintenant qu'un prêtre, un raja, un saint homme, ou n'importe qui que ce soit, vienne lui rendre la vue, et je suivrai votre philosophie. Vous avez fait un converti. Et je n'ai jamais vu un groupe de gens aussi silencieux. Voyez, personne ne le fit. Et je dis, pourquoi ne dites-vous rien maintenant? La raison de ce silence, la voici. Vous ne pouvez pas le faire, ni moi non plus. Mais le Dieu du ciel, qui ressuscita son fils Jésus, dont nous sommes les serviteurs, vient de me montrer en vision que cet homme allait retrouver la vue. Voyez, je dis, maintenant si cela n'arrive pas, vous pouvez me chasser de l'Inde. Mais si cela arrive, chacun de vous doit sa vie à Jésus-Christ. Je voudrais vous demander combien ici donneront leur vie à Christ si cet aveugle recouvre la vue. Vous voyez que niveau prêtre, ni personne ne s'est présenté. Pourquoi ne le font-ils pas si leur religion est si grande et si bonne? Pourquoi n'y a-t-il personne pour venir dire quelque chose? Personne ne vient. Je dis, donc bougeons ici dehors, si vous voyez cet aveugle qui se tient ici. Un docteur vint pour lui examiner les yeux, il secoua la tête et dit, il est aveugle. Alors je dis, certainement il est aveugle. Mais je dis, si Dieu lui donne la vue, combien de vous serviront Jésus-Christ? Et aussi loin que je pouvais voir, c'était un océan de mains noires. Je me tournai vers l'homme et dis, Seigneur Jésus, montre-leur que tu es Dieu. L'homme me prit par le cou, et le maire de Bombay était assis là, il le prit par le cou, il voyait aussi bien que possible. C'est une puissance véritable. Dieu et Satan est Satan. Si vous ne croyez pas au diable, dès le départ, je donne tête baissée contre lui tous les jours. Ne me dites pas que le diable n'existe pas, parce que j'en sais quelque chose. Tu dois le combattre tous les jours. C'est pourquoi je sais que Satan existe. Et quand vous le rencontrez, il faut que vous soyez exercé, pas exercé à la psychologie ni aux études, mais exercé par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu dans sa parole pour la rendre manifeste. Je connais votre ennemi. Oh, comme il est cruel! Comme j'aimerais pouvoir rester là un moment et pouvoir m'étendre là-dessus, reprendre la Bible et vous y montrer un homme qui le rencontra face à face. Comment dans la lutte contre l'ennemi, ils se fortifiaient par la parole de Dieu. Noé en fit l'expérience, et il savait que Dieu lui avait dit qu'il pleuvrait. Et la lutte était entre la science et la parole de Dieu. La science disait, cela ne peut pas arriver. Dieu disait, cela arrivera. Amen. Cela existe de la même manière aujourd'hui. Cela va arriver. Cela arrive. Il y a des démons, mais Jésus les chassa. Et il donna à son Église l'autorité pour le faire. Vous chasserez les démons en mon nom. Un jour, il chassa 7 démons d'une jolie femme. Et il a dit, quand un esprit malin est sorti d'un homme, il s'en va dans les lieux arides, puis il revient amenant 7 autres démons avec lui. Maintenant, ceci montre que si l'homme était débarrassé des démons, quelque chose qui était en lui était sorti. Maintenant, quand le démon sort, c'est pour Dieu une occasion d'entrer. Aussi, quand il sort, laissez entrer le Saint-Esprit. Ne le laissez pas comme cela. Si vous vous repentez seulement et que vous continuez, alors vous allez être pire que jamais. Mais prenez cet endroit où Satan vivait autrefois et qu'il occupait, remplissez-le du Saint-Esprit de Dieu. Et vous aurez la force de la parole de Dieu en vous, manifeste, et vous chasserez les démons. La lutte continue. Les lumières du soir brillent. Le Saint-Esprit de Dieu est présent. Et maintenant, il n'y a plus environ que 3 minutes avant le moment où les sifflets vont se faire entendre et ce sera minuit. Alors, lorsque nous quittons cette salle pour aller chacun chez nous, dans nos foyers, et pour rencontrer dehors, pour rencontrer le monde, n'y allons pas comme nous l'avons fait auparavant. Allons dans la puissance de sa résurrection. Allons dans le nom de Jésus-Christ, avec une bannière levée bien haute et avec la foi dans sa parole, pour manier l'épée à 2 tranchants avec le bouclier et toute l'armure de Dieu, pour rencontrer l'ennemi, parce qu'il devient chaque jour de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Alors que l'ennemi entre comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élève un étendard contre lui. Si nous sommes arrivés à la fin de ces choses que nous, et si les mystères de Dieu ont été achevés avec nous, nous cherchons plus de force, une force pour l'enlèvement, pour rencontrer une force plus grande qui enlèvera l'Église et l'emmènera dans la gloire. Nous devons l'avoir. Commençons 63 avec ce défi. Nous sommes les serviteurs du Dieu vivant. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego d'antan, nous ne nous inclinerons pas devant les démons de ce monde et nous ne reprendrons pas ces choses dont nous avons parlé, mais nous poursuivrons la bataille. Je ressens ce soir, alors que nous écoutons ces sifflets, quelque chose comme ce que ressentit David pendant cette horrible nuit chaude quand il était derrière le buisson de mûrier et que l'ennemi était en éveil. Quel moment ça devait être pour David! Quel moment! Pour lui, étendu là-bas, il ne savait comment bouger, il ne savait que faire, car il savait que les ennemis le dépassaient en nombre. Mais tout à coup, il entendit comme un souffle d'air dans le haut des buissons. Il sut que Dieu marchait devant lui, et il marcha à la bataille. Je me sens un peu comme cela ce soir, après le message d'hier soir. Je me trouve dans les heures les plus sombres que j'ai jamais passées de ma vie. Je me sens comme Ésaïe au temple, après avoir vu ses anges. Je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure parmi un peuple aux lèvres impures. Mais, écoutez-moi, il faut que je le rencontre. D'une façon ou d'une autre, et la seule chose, j'attends d'entendre ce mouvement impétueux dans les mûriers pour partir à la rencontre de l'ennemi, où qu'il soit, que Dieu nous aide à le faire. Et maintenant, je crois qu'il est 00:01, et 62 avec tout son passé est terminé. Levons-nous maintenant chacun d'entre nous. La lutte est pour chacun de nous. Paul dit, oubliant ces choses qui sont du passé, toutes ces erreurs de l'année dernière, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Toutes les erreurs que j'ai faites pendant ces années passées, pardonnez-les-moi. Dieu, pardonne-moi. Église, pardonne-moi. Et le ministère que j'ai l'impression d'avoir trahi, ô Dieu, pardonne-moi pour cela. Église, pardonne-moi mes erreurs. Et je vais courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Quoi que demain apporte, je ne sais pas, mais je sais que tout 1963 est entre ses mains. Élevons nos mains vers Dieu, maintenant, et prions à notre façon, faisons notre confession, et demandons à Dieu de nous aider au long de cette prochaine année qui arrive. Père céleste, alors que nous sommes debout ici, alors que de nombreuses pensées s'éteignent dans nos cœurs, et les erreurs de l'année passée, et alors que nous approchons de la mort de 62 et de la naissance de 63, ô Dieu, que nous ayons progressé d'un échelon, jusqu'à ce que nous puissions voir Jésus et son programme. Que chacun ici dans la prière, Seigneur, alors que la vieille année meurt et que la nouvelle naissance de la nouvelle année approche, que le péché et l'incrédulité du vieil homme quittent notre cœur, et que la nouvelle naissance y entre avec 1963, comme un vent puissant et impétueux qui remplisse notre être et fasse de nous de nouvelles créatures en Christ. Fais de nous des serviteurs capables. Oublie notre passé. Bénis notre futur. Guide-nous, ô Seigneur Dieu de ta main puissante, Jéhovah. Bénis ses serviteurs ici, bénis les frères et sœurs, tous les visiteurs. Sois avec nous, Seigneur. Nous sommes tous tes serviteurs, et nous nous offrons à toi complètement pour 1963, que la puissance de ton esprit ait une plus grande importance dans notre vie et dans notre être. Aide-nous, Seigneur. Pardonne-nous et aide-nous, nous t'en prions. Suscite des hommes puissants. Suscite de puissants combattants de la foi. Ouvre cette année, Seigneur, la manne cachée, ce rocher sous le rocher, pour que nous puissions voir le programme de Dieu. Coiffe la pyramide de notre vie, Seigneur, que ces bénédictions grandes, saintes et magnifiques tombent sur nous, que la puissance de la résurrection soit manifestée. Seigneur, comme nous te remercions ce soir, nous t'appartenons, nous nous donnons complètement à toi, Seigneur. Alors que je m'en vais là-bas, ne sachant ni où, ni comment, ni ce que je ferai, je sais, Dieu Tout-Puissant, que tu me guideras, moi, ton serviteur inutile, pour que je puisse être employé pour l'honneur et la gloire du Tout-Puissant. Accorde-le, Père. Reçois nos prières, bénis nos efforts, guéris les malades et les affligés, à la fois spirituellement et physiquement, et fais de nous tes serviteurs. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Forme-nous chacun à ta manière, pour que nous puissions nous ajuster tous ensemble avec Jésus-Christ comme des membres de son corps. Car nous le demandons au nom de Jésus, pour lui et pour l'Évangile. Amen et Amen. Merci, divin Père. Nous te remercions pour cette exhortation du Nouvel An, qui nous accompagne avec l'espoir et le réconfort de savoir qu'à travers des mots dits à ces hommes qui ne le savaient pas, que le message est vrai, et que tu nous demandes de le soutenir. Nous ferons tout ce que nous savons faire pour nous ranger de ton côté et du côté de ta parole. Reçois-nous dans le nom de celui qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse point tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Mais ceux maintenant qui doivent rentrer chez eux, maintenant il est 5 minutes passées, il est 5 minutes en 63, que Dieu vous bénisse. Et vous qui voulez rester pour la communion, vous êtes les bienvenus. Nous serons contents de vous avoir. Ce n'est pas une communion qui nous est réservée, c'est pour tous les croyants qui sont en communion fraternelle avec Christ. Vous pouvez rester et prendre la communion avec nous. Et la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que c'est la première chose à faire lorsque nous partons en voyage. Et Israël, avant de commencer son voyage, tua l'agneau, mangea les herbes amères et entreprit le voyage. Et je pensais, comme c'est à propos ce soir, l'agneau a été immolé, il a été préparé, c'est la fête, et il est minuit. C'est à minuit, vous savez, qu'ils mangeaient. faisons de même. Vous qui désirez rester avec nous et vous préparer pour le voyage à venir qui se prépare, nous serons heureux de vous avoir. Dieu vous bénisse. Et ceux qui doivent partir maintenant, vous pouvez rentrer chez vous, et le Seigneur soit avec vous, jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau. Amen. Les autres peuvent s'asseoir, et nous allons commencer la communion. La sœur va. Très bien, monsieur. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions aux pieds de Jésus, nous nous retrouvions, Dieu soit avec vous, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Chantons encore pendant que nous attendons que ceux qui doivent partir soient sortis. Nous pourrons être au calme et alors ceci est une chose très solennelle. Dans un moment, je vais vous lire les Écritures, quelque chose qui est vraiment bien. Et maintenant, chantons encore. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, serrons la main de quelqu'un. S'il y a quelque chose de mal dans votre vie, s'il y a quelqu'un ici à qui vous avez fait du mal, allez à lui et arrangez cela. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, Dieu, que le pianiste vienne au piano, s'il vous plaît. Avec vous, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, jusqu'à ce que nous nous retrouvions aux pieds de Jésus, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, Dieu soit avec vous, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Au soleil ou dans l'ombre, il prend soin de vous. Chantons encore. Il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Au soleil ou dans l'ombre, il prend soin de vous. N'est-ce pas beau? Chantons-le encore pendant qu'on fait silence. Il, fermez simplement vos yeux. De vous, il prend soin de vous. Au soleil ou dans l'ombre, il prend soin de vous. Père céleste, nous sommes si heureux d'avoir prouvé qu'il est vrai, que dans les heures les plus sombres, comme dans les heures claires, il ne nous quitte, il ne nous abandonne jamais. Nous sommes si heureux de ce que notre confiance soit bâtie sur rien moins que le sang de Jésus avec ses mérites. Nous ne nous confions pas, Seigneur, dans la réputation de ce monde. Nous avons confiance, nous ne nous confions pas même dans la plus douce disposition, mais nous nous appuyons complètement sur le nom de Jésus. Comme nous te remercions, Père. Maintenant, nous allons obéir à l'une des peu nombreuses règles que tu nous as laissées. L'une était le baptême, l'autre la communion, et la troisième le lavage des pieds. Ô Dieu, nous nous approchons solennellement, sachant que l'agneau est l'agneau de la Pâque. Le grand voyage dans le désert est devant tes enfants. Le sang doit être d'abord appliqué sur le linteau de la porte, avant que l'agneau pascal puisse être pris. Dieu, examine nos cœurs maintenant. Le sang est-il là, Seigneur? S'il n'y est pas, nous te prions de l'appliquer maintenant, effaçant nos péchés, les couvrant, et ils seront loin de nous, Seigneur, les péchés de ce monde. Que nous puissions être saints et présentables devant notre Père, alors que nous venons prendre le corps et le sang répandu de notre agneau, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Sonde nos cœurs alors que nous lisons, Père, puis fais-nous tiens, car nous le demandons au nom de l'agneau, Jésus-Christ. Amen. Dans le livre des Corinthiens, le 11e chapitre, je désire lire quelques versets en commençant au 23e verset. Je lis ceci, c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre dorment. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Oui, je pense que ce moment est le plus solennel. Il est aussi écrit que lorsque la communion fut donnée pour la première fois et le lavage des pieds, que nous ne pouvons pas faire ce soir, car nous n'avons pas d'eau. L'eau est complètement coupée. Nous n'avons même pas de commodité dans les toilettes, parce qu'ils ont dû arranger cela le mieux qu'ils ont pu pour que nous ayons le service ce soir. Mais nous allons faire comme ils firent. Je crois que c'est Luc qui le dit. Ils chantèrent un cantique puis sortirent. Savez-vous ce que ceci représente? Savez-vous qu'au commencement, quand cet ordre fut donné d'abord à Israël, là-bas en Égypte, ils étaient en route vers la terre promise? Et c'est ce que nous ressentons ce soir, que nous sommes sur la route de la terre promise. Et le voyage est devant nous. Et ils avaient un signe, que lorsque l'ange de la mort passait, ils devaient avoir du sang sur la porte, ou alors le fils aîné ou l'aîné des enfants de cette maison mourrait. L'idée et le vrai sens était d'abord de mettre du sang sur la porte. Avez-vous remarqué, comme Paul en parle ici, celui qui mange indignement, mange et boit une condamnation contre lui-même, ne discernant pas le corps du Seigneur. Ce qui veut dire la même chose que la mort spirituelle, pèse sur la personne qui participerait au souper du Seigneur indignement. Ce serait de sortir et boire et vivre comme tout le monde et de venir ensuite à la table du Seigneur. Nous ne devons pas faire cela. Maintenant, lavons nos cœurs et nos mains et nos esprits de pensées mauvaises, de façon à venir à la table du Seigneur saint et avec respect, car nous savons que nous nous lions à notre sacrifice, Jésus-Christ, qui est notre seul salut. Et maintenant ce soir, voici la façon dont nous faisons ceci. Un des anciens se tient là, frère Zabel. Et je crois, frère Zabel, ce soir, si vous voulez bien, appelez d'abord de l'estrade pour que ces personnes puissent venir de l'estrade. Et formez votre première ligne ici, si vous voulez. Maintenant, frère Zabel va vous diriger dans un moment, aussitôt que nous aurons demandé la bénédiction sur la communion. Ce pain cachère fait par un chrétien est sans levain. Et si vous remarquez, quand vous le mettez dans la bouche, il est très rugueux pour être amer. Il est ridé, brisé. Il signifie le corps brisé et rompu de notre Seigneur Jésus. Oh, quand j'y pense simplement, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Quand je pense qu'il fut meurtri et frappé, l'innocent Fils de Dieu. Savez-vous pourquoi il fit ceci? Parce qu'il était coupable. Il devint moi, un pécheur, pour que par sa grâce, je puisse devenir semblable à lui, un fils de Dieu. Quel sacrifice! Courbons la tête. Dieu très saint, j'ai dans ce plat de métal ce soir, ce pain qui représente le corps brisé, meurtri, frappé de notre Seigneur. Quand le prophète s'écria, il fut blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Oh, comme nous rappelons cela, Seigneur, alors que je me lie à ce sacrifice ce soir, ainsi que cet auditoire, Seigneur, à ce sacrifice, afin que nous nous souvenions de notre Seigneur, de sa mort et sa flagellation, et de tout ce qu'il supporta pour nous, alors que nous mettons ce pain dans notre bouche. Dieu, nous sommes un peuple indigne. Nous ne sommes pas dignes d'une chose aussi sainte. Alors, Seigneur, que ta sainteté, ta présence et ton sang nettoient nos cœurs. Alors que nous recevons ce repas, puissions-nous prendre la résolution dans notre esprit de le servir constamment, nuit et jour, tous les jours de notre vie. Maintenant, sanctifie ce pain pour l'usage qui lui est destiné. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Et je tiens ceci dans mes mains, après environ 33 ans de service auprès de mon Seigneur, et j'ai honte de moi-même. Mais je pense, que ferais-je si j'avais vraiment deux gouttes de son sang dans mes mains ce soir? Qu'en ferais-je? Mais vous savez, selon son opinion, j'ai eu encore plus que cela ce soir, ce qui a été racheté par son sang, son Église. Aussi, quand je tiens ce pain et le jus de ce raisin, je pense à ceci. Il a dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et remarquez qu'après que la guerre du péché soit finie, la première chose que nous faisons, quand nous touchons notre côté, c'est de prendre la communion, le souper du Seigneur. Et courbons la tête maintenant, pendant que nous bénissons ce vin. Notre Père Céleste, quand je pense que je tiens ce vin ici, qui représente le sang de Jésus, que mes péchés ont disparu dans le flot de ce sang, ils sont jetés dans la mer de ton oubli pour être oubliés à jamais. Et avec ce sang, un garçon mourant était un jour couché dans un hôpital et tu m'as sauvé. Ô Dieu, comme je te remercie, Seigneur, et donne-moi la charge par le Saint-Esprit de conduire ces gens au calvaire et de leur montrer le chemin de la maison. Merci, Père, et maintenant sanctifie ce vin pour l'usage qui lui est destiné. Et que tous ceux qui prennent part à ce sacrement ce soir reçoivent la force spirituelle et physique pour le voyage qui est devant nous, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. La communion est servie à la congrégation. Il y a un espace vide sur la bande. Noble vie. Être là et regarder les familles venir, c'est de cette façon que ce sera un jour. Famille par famille, rang par rang, groupe par groupe, un par un, quand nous le rencontrerons, quel moment merveilleux. Quand toutes ces vies humaines qui ont été sur terre, qui ont cru en lui, qui se sont confiées en lui, se rencontreront là-bas ce jour-là. Est-ce que ce ne sera pas merveilleux? Nous ne pouvons pas faire le lavage des pieds aujourd'hui à cause de l'eau. Nous n'avons pas suffisamment de commodités actuellement, mais nous pensons qu'elles seront bientôt installées. Ils travaillent bien et vite au nouveau tabernacle. En quelque sorte, je pense qu'il est très à propos d'avoir la communion le premier jour de l'année, comme cela, à cette heure. Maintenant, vous qui n'êtes pas de cette ville, conduisez bien prudemment demain en rentrant chez vous. Que Dieu vous accompagne. Et vous ici de ce pays, que Dieu soit avec vous et vous aide. Et maintenant, le Seigneur voulant, je dois partir pour cette prochaine réunion bientôt en Arizona, puis Dieu voulant, je serai de retour avec vous pour les 7 sauts, comme je l'ai promis. Je désire certainement vos prières. J'ai vraiment besoin de vous. Aussi, n'oubliez pas de prier pour moi. Et que tout aille bien pour vous. Et j'apprécie certainement votre présence et comment vous avez écouté ce que je vous ai dit dans l'Évangile. Je crois que nous faisons un changement maintenant et je vous remercie pour votre bonté. Et beaucoup parmi vous parcourent des kilomètres et des kilomètres pour venir entendre une simple personne comme moi qui essaye d'apporter la parole de Dieu. Je suis sûr que vous êtes venu pour écouter quelque chose de plus important que moi, car je n'ai rien à présenter. Je n'ai ni éducation, ni personnalité, il n'y a rien en moi. Alors, quand je vois des gens parcourir des centaines de kilomètres, rester debout et attendre ici à 2 heures du matin, ce n'est pas pour quelque chose que j'ai, c'est Christ. Je suis si heureux que vous l'aimiez, et je l'aime aussi. Et ensemble nous l'aimons, et parce que nous l'aimons, nous n'aurons jamais à nous séparer. Nous pouvons être séparés pour un peu de temps ici, alors que le temps passe, mais nous serons réunis. C'est mon ambition d'essayer de mener les gens à cet endroit. Et maintenant, commençant la nouvelle année, je ne veux pas vous dire « heureuse année », je veux vous dire « Dieu vous bénit ». Et s'il le fait, c'est tout ce dont nous avons besoin pour l'année qui vient. Et je crois qu'il le fera. Et maintenant, nous allons essayer pendant cette nouvelle année, s'il m'épargne, s'il vous épargne par sa grâce, j'espère être un meilleur pasteur l'année prochaine que je n'ai été cette année. J'espère être un meilleur serviteur de Christ. J'essaierai de toutes mes forces de vivre plus près, plus fidèle, pour apporter le message. Comme il me le donne, je vous l'apporterai du mieux que je pourrai. Je ne retiendrai rien de ce qu'il désire que je vous donne. Je ferai tout ce que je saurai faire. Et je sais que vous ressentez la même chose. Vous sentez que nous désirons tous travailler ensemble maintenant, car les lumières du soir se voilent et le soleil se couche. la terre se refroidit, et nous savons que spirituellement l'Église se refroidit et que les réveils sont terminés. Nous ne savons pas ce qui va arriver, mais nous nous confions dans le Seigneur pour cela, quoi qu'il arrive. Et maintenant, comme quelquefois nous, je veux que vous vous rappeliez que le tabernacle, ici, a un des plus grands pasteurs qu'il y ait dans le monde, frère Ormanneville, un homme de Dieu, un homme de bien. Et pendant mon absence, frère Neville s'occupe de tout exactement comme j'aime que ce soit. Les administrateurs, les diacres, etc. doivent rester à leur tâche comme ils le font. Et ceci est notre quartier général. C'est ici que nous demeurons. Billy Paul ne viendra pas avec moi. Il n'y sera que pour la réunion et reviendra ici. Le travail et tout s'accomplit ici exactement de la même façon. Je vais simplement là-bas, cela ne veut pas dire que je vous quitte. Je m'en vais simplement, comprenez-vous? C'est une vision. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai confiance et je crois que ce sera pour l'avancement de toute l'Église. Et je sais que c'est mieux pour nous tous si nous suivons les directives du Seigneur. C'est tout ce que nous savons faire. Ce n'est pas facile pour moi. Je me souviens qu'autrefois j'ai dû aussi m'éloigner de l'Église. Certains d'entre vous qui sont là depuis longtemps s'en souviennent comme j'avais du mal à le faire. J'aime les gens. Quand j'étais un petit garçon, je n'étais pas aimé. Personne n'avait d'affection pour moi quand j'étais petit. Et moi, quand je trouvais quelqu'un qui m'aimait, je pensais que j'aurais voulu mourir pour lui. Et maintenant, parce que quelqu'un vous aime, parce que quelqu'un prend soin de vous, un jour, je grimpais à un poteau et mon crochet a glissé sur un vieux poteau de cèdre et le nœud était haut. Je l'accrochais avec mon éperon et je me suis retourné. Je suis tombé de 15 pieds de haut. Et j'ai accroché mon bras. Une femme a crié. Elle s'encourageait en quelque sorte. J'ai toujours aimé cette femme, car elle s'inquiétait de moi. Elle était quelqu'un qui s'inquiétait des autres. Et moi, j'ai toujours pensé, ceux qui s'inquiètent de moi, je les aime. Et ici, il y a quelque temps, j'étais en ville, je pensais aux jours passés et à ce que Dieu a fait pour moi. Et certainement, je l'apprécie. Et je vous remercie pour votre affection et votre amour fraternel. Et je n'essayerai jamais de mal vous diriger. Ce sera toujours le droit chemin, autant que je le sache. Et vous pouvez témoigner que je ne dis jamais rien de moi-même. C'est toujours Jésus-Christ. Voyez, j'ai essayé de me tenir auprès, aussi près de la parole que je savais le faire, de vous conduire et de vous guider vers cet endroit. Et je vous remets maintenant aux mains de frère Neville, d'abord entre les mains de Dieu, et ensuite aux soins de frère Neville, pour être le pasteur de cette église et garder l'héritage jusqu'à ce que je puisse avoir cette réunion et revenir vers vous à nouveau. Confiant qu'à ce moment-là, je pourrai vous apporter une grande révélation de Dieu qui fera tressaillir tous les cœurs et glorifiera l'église de Dieu. Nous prenons habituellement la communion, je ne veux rien dire de plus. Vous savez ce que je ressens. Je crois que nous devrions chanter tout de suite ce chant « Ma foi, regarde à toi, agneau du calvaire ». Et tandis que nous sommes debout et chantons, serrons-nous la main les uns les autres et disons, Dieu vous bénisse. Ma foi regarde à toi, Sauveur divin, entends ma prière et passe toutes mes fautes, je suis tout à toi. Maintenant, levons les mains vers lui. Ma foi regarde à toi, Agneau du calvaire, Sauveur divin, entends ma prière et passe toutes mes fautes, oh qu'à partir de ce jour, ce soit tout à toi, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, au pied de Jésus, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, que Dieu soit avec vous, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, Dieu soit avec vous, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Courbons la tête maintenant. Frère Neville, voudriez-vous prier alors que nous nous séparons?